When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon saison 8, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à rentrer dans le dressing, non pas d'une femme, mais d'un homme. François de Châtel incarne à mes yeux l'élégance au masculin. Après avoir bossé dans une banque d'affaires à Londres, François a tout plaqué pour créer sa propre marque de souliers. Sa définition de la mode passe évidemment par la chaussure. Bonjour François.
Bonjour Valérie.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ?
Alors, bien sûr, j'ai 41 ans et le Châtel est ma seconde aventure professionnelle. La première expérience, c'était il y a une douzaine d'années. Après mes études, j'ai travaillé à Londres dans une banque d'affaires. Et mes études auparavant ont été purement parisiennes. Je suis diplômé de... J'ai commencé par du droit.
C'est bien diplômé.
Diplômé d'Assas et de la Sorbonne, avec un troisième cycle en droit. J'ai également fait Sciences Po, donc un diplôme de sciences politiques généraliste. Et je suis diplômé de l'école HEC, où je suis arrivé en deuxième année, donc après le cursus juridique. J'ai donc fait la deuxième année, l'année de césure, et la troisième année avec une spécialité juridique. Donc à la base, j'ai une casquette un petit peu de juriste, avec un volet droit des affaires, et je suis parti juste après ces études à Londres. C'était un peu l'âge d'or des fusions-acquisitions. J'ai été recruté à l'époque par Merrill Lynch avant mon diplôme, on était en 2006.
C'est la bonne époque.
Voilà, c'était il y a quasiment une autre décennie, plus d'une autre décennie. Et Merrill Lynch a été racheté 3 ans après par Bank of America. Lors du rachat, je suis rentré à Paris. Et chez Merrill Lynch, j'étais analyste en fusion-acquisition sur le secteur pétrolier, donc oil and gas. Donc rien à voir avec des chaussures. Lors du rachat de Merrill Lynch par Bank of America, je me suis fait remercier. Je suis rentré à Paris où j'ai continué à faire un petit peu de finance pour une petite boutique de fusion-acquisition que j'avais créée. Ça a duré 2 ans, et en 2000, 2-3 ans. Et en 2011-12, je me suis dit que je ne voulais pas faire ça toute ma vie. Je me suis réveillé et faire du conseil en finance, des modélisations financières, des beaux PowerPoints, c'était très formateur. Mais,
c'est pas ton truc.
Voilà, c'était pas mon truc. Je m'en suis rendu compte vraiment du jour au lendemain. Et j'ai décidé subitement de créer une marque de chaussures qui s'appelle Châtel.
Alors, Châtel, alors, par contre, quand tu m'as raconté l'histoire de Châtel, je me suis dit, il faut partager cette histoire dans le chiffon. Le Châtel a commencé par une phrase, on va l'expliquer. Alors, en 2012, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Et Châtel est né. Exactement. Alors, vas-y, est-ce que tu peux tout nous raconter ?
Tout à fait. C'est un vers de Victor Hugo qui est tiré du poème Léopoldine. Qui vient d'une histoire d'amour, en l'occurrence l'amour paternel d'un père pour sa fille. Et à l'époque où je travaillais à Londres, j'avais découvert cette forme de chaussure donc, qui a donné naissance à Châtel, qu'on appelle les slippers.
Voilà, c'est
ce
ça.
Sont des chaussons traditionnellement anglais, qui étaient portés pendant longtemps par des hommes à l'intérieur. Et à l'époque où j'habitais à Londres, j'avais acheté une chaussure sur Jermyn Street, où j'avais fait marquer à l'intérieur, pour ma petite amie de l'époque, ce vers de Victor Hugo, sur le pied gauche, je ne puis demeurer, et sur le pied droit, loin de toi plus longtemps. La jeune fille avait adoré les chaussures, m'avait laissé tomber en gardant les chaussures, et du coup j'ai rebondi quelques temps après en lançant Châtel.
Elle a eu les chaussures, elle t'a laissé tomber, c'était ça.
Voilà, exactement, elle est partie avec, et donc j'ai gardé l'idée, et aujourd'hui on retrouve ce petit vers de Victor Hugo, c'est un clin d'œil, ça fait partie un petit peu de l'ADN de la marque, qui est assez romantique, assez parisien, assez littéraire, et on le retrouve dans sa chaussure.
Mais comment tu t'es passé donc, de la fusion-acquisition, bon, il y a cet événement avec cette jeune femme, cette jeune fille, et hop, tu crées Châtel. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic ? Parce que tu aurais pu créer une ligne de costumes, des chemises.
Il y a cette histoire d'amour qui m'a
marqué.
Qui m'a marqué et qui m'a fait réaliser que les femmes aimaient beaucoup les chaussures, à tel point qu'elles les avaient gardées juste avant la rupture. Et je me suis dit que c'était c'est la mode aussi, en tant que j'ai grandi à Paris, en tant que Français, Parisien, je pense qu'on a un œil naturel sur tout ce qui est mode, tout ce qui est esthétique. Donc ça me parlait aussi, même si j'avais jamais étudié ce secteur auparavant, j'avais jamais travaillé dans la mode également, mais j'avais une certaine affinité personnelle.
Tu as une affinité aussi familiale, on peut dire que ta maman travaillait chez Hermès.
Oui, c'est sûr, on a toujours eu la chance d'évoluer dans entouré de beaux objets, avec des beaux environnements et tout. Et effectivement, le fait que maman ait travaillé quelques décennies chez Hermès m'a peut-être sensibilisé à l'art de vivre français, au goût du luxe, aux belles choses. Et j'en ai fait une aventure entrepreneuriale, aussi parce qu'il n'y avait pas de barrière technique à l'entrée. On parle d'un produit, consumer goods, c'est vraiment...
Qu'est-ce que tu appelles consumer goods ?
Ben, un bien de consommation, il n'y a pas de technologie, ce sont des chaussures. Alors, comme on est monoproduit, on a pas mal creusé le soulier, on a consulté un podologue, il y a toute une semelle à mémoire de forme un petit peu technique, mais ça me paraissait assez simple à exécuter, surtout que j'ai commencé l'aventure tout seul.
Et maintenant, vous êtes...
Alors, maintenant, il y a un fonds d'investissement qui est actionnaire, on est toute une équipe et tout, mais pour lancer l'activité, j'étais seul et je me sentais capable de le faire, surtout parce que je comprenais le produit.
Et tu as dessiné au départ ?
Oui, tout à fait. J'ai dessiné la chaussure. Alors, c'était très itératif. Il y a eu une quinzaine de prototypes. Il m'a fallu trouver une usine aussi. On voulait fabriquer en Europe, donc je suis parti dans le Portugal avec le bouche à oreille. J'ai fait plusieurs voyages à Porto et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé le bon atelier. Qui travaille encore avec nous, avec d'autres trois autres usines aujourd'hui. Et c'était vraiment un processus itératif, mais dont je suis assez fier parce que je ne connaissais rien à ce domaine et j'ai réussi à exécuter la production d'un produit
comptable. Ce qui est fort avec Châtel aussi, c'est que, comme tu le disais, c'est un monoproduit. Bon, maintenant, il y a quelques... On va dire...
Décline sur une dizaine de formes différentes, mais tout tourne autour du slippers féminin.
Voilà, avec... qu'on peut aussi customiser, voilà. Personnaliser...
Exactement. L'ADN de la marque tient en trois mots. C'est une marque d'abord parisienne, ensuite personnalisable, customisable. Je pourrais peut-être en parler plus tard, mais on peut accessoiriser les languettes des chaussures avec tout un choix de petits accessoires interchangeables qui vont de bijoux, de passementeries, de gros nœuds, de petits clips. Et également le confort, ce serait le troisième pilier de la marque.
Ah oui, ça, je peux le confirmer. Et tu fais aussi des... Alors, il y a tout un débat avec l'Espagne, l'Italie, mais les Friulanes. C'est ça?
Voilà, exactement. Alors, je dis, c'est une des formes principales de notre offre. On a les chaussons vénitiens qu'on appelle Frioulan, qui sont fabriqués traditionnellement dans le Friuli, à côté de Venise. Et donc, c'est la version italienne du slippers. Elles ont une belle histoire parce que pendant longtemps, c'était des chaussures portées par les gondolieri à Venise. Elles ont une semelle qui est antidérapante, donc c'est parfait pour le bois des gondoles. Et aujourd'hui, on les fait encore traditionnellement dans le Friuli avec des matériaux recyclés. Il y a une semelle en caoutchouc faite à partir de chambres à air de vélo qui a toute une histoire.
Justement, est-ce que tu peux raconter l'histoire aux auditeurs de la vraie histoire de la Friulane ? C'est du caoutchouc ?
Alors, les Friulanes sont nés en Italie après la Seconde Guerre mondiale, dans le Veneto, qui a été une région très impactée par le conflit. Et c'était une région très pauvre, concrètement. Les Italiens sont une population très ingénue et ils ont fabriqué des chaussons à partir des chambres à air. À l'époque, il y avait peu d'automobiles et tout le monde roulait en bicyclette. Donc, ils ont recyclé les pneus qui étaient crevés. Ils les fondaient et ils les cousaient sur les semelles extérieures de leurs chaussons. Les chaussons n'ont pas de matière animale. C'est uniquement de la toile, du coton pour l'extérieur et l'intérieur avec le caoutchouc recyclé. Donc, c'était des chaussures pour une population assez, assez humble, assez simple, mais qui était très ingénue. Tout ça est né autour de Venise, donc on les a rapidement retrouvés au pied des gondolieri. Et pendant très longtemps, on ne les trouvait qu'à Venise. Il fallait voyager là-bas pour pouvoir en rapporter en Europe. Et depuis quelques années, Châtel, au même titre que d'autres marques d'ailleurs, en fabrique. On a la spécialité, nous, de les fabriquer vraiment dans un atelier traditionnel du Friuli. Il y a plein de marques qui en fabriquent ailleurs dans d'autres pays, mais les nôtres sont vraiment italiennes, avec tout le savoir-faire qu'on retrouve depuis le début de ces souliers.
Et pour les souliers forme slippers, il y a aussi un gage de qualité, je dirais une dose de classicisme aussi, d'intemporalité.
Oui, tout à fait. La marque se veut une marque intemporelle qui résiste un petit peu aux effets de mode. On essaye d'établir le slippers comme un classique du vestiaire féminin, au même titre que les mocassins, les ballerines, vraiment des chaussures qui résistent aux tendances. Elles ont l'avantage d'avoir une belle histoire qui provient du vestiaire masculin. Pendant longtemps, c'était des souliers d'hommes portés par des aristocrates anglais à l'intérieur. Le nom tailleur technique des souliers s'appelle Slippers Albert. Slippers, c'est to slip on. On glisse son pied à l'intérieur, il n'y a pas de lacet. On n'a pas trop à se baisser pour les enfiler. Et Albert, c'était l'époux de la reine Victoria, le prince Albert, fin 19e. Pendant longtemps, les chaussures donc, étaient vraiment l'apanage de cours européennes. À l'époque, la couronne britannique rayonnait le plus en Europe, donc ça s'est diffusé dans toutes les monarchies européennes. Et c'était vraiment des souliers d'hommes d'intérieur. Et aujourd'hui, depuis quelques années, depuis 2012, date de naissance de Châtel, on les fabrique pour l'extérieur, pour les femmes.
Alors, femmes, mais maintenant, tu as décliné. Tu as des modèles pour hommes, pour les enfants aussi.
Exactement. Ça reste une infime minorité de notre offre, mais on a une capsule homme qui va d'un côté formel, donc des chaussures de smoking, à un côté informel. On retrouve les furlanes vénitiennes pour les hommes aussi. On a fait des espadrilles certains étés. Donc, on a une petite capsule, mais assez étoffée pour hommes. Et pour enfants également, on en retrouve les petits chaussons vénitiens dont on a parlé. Et également des tout petits chaussons pour bébés qui sont fabriqués en Inde par une fondation. C'est un projet caritatif, mais ça permet des petits cadeaux de naissance sympathiques.
Il y a aussi quelque chose qui me plaît bien chez Châtel, c'est que tu travailles avec un atelier de réinsertion.
Tout à fait. Notre logistique est exécutée par ce qu'on appelle un ESAT. C'est un établissement spécialisé qui emploie des travailleurs handicapés, un établissement public soutenu par les régions. La France en est parsemée et le nôtre est situé en Normandie. Ils ont la particularité d'offrir un travail salarié à des personnes souffrant d'un handicap moteur physique. Et on est très, très fiers de travailler avec eux. Ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille avec eux. Ils sont extrêmement fiables, efficaces. Il n'y a jamais de faute. C'est impressionnant. Et ça leur permet un travail. Nous, ça nous donne ça nous donne une garantie de travail de qualité. Et surtout, c'était le principal critère, ça nous permet de remplir une petite obligation morale sociétale où on donne du travail à toute la communauté, dont des travailleurs handicapés.
Tu es déjà dans l'esprit de la RSE ?
Voilà, tout à fait. On est dans la vague RSE, mais ça s'inscrit, je pense, toutes les startups actuelles sont sensibles à ces problématiques. C'est un petit peu inné, je dirais même pas obligatoire, parce que ça fait partie de notre environnement. Il faut qu'on s'inscrive dans notre société et donner du travail à des handicapés fait partie de cette démarche.
Est-ce que tu ne portes que des Châtel, toi ?
Oui, je porte que des Châtel.
Absolument, tout le temps, tout le temps.
Ben, comme on a une gamme assez large, vraiment, qui couvre tout le spectre formel, informel, vacances, hiver, intérieur, extérieur, je suis très, très souvent en Châtel, sauf quand je fais du sport. On n'a pas encore de basket technique pour jouer au tennis, pour aller courir. Donc, c'est la seule exception. Mais je vis en Châtel et je teste les produits avant qu'on lance les nouvelles formes. Je challenge absolument tout. Et je suis très fier d'être chaussé par les souliers de ma marque.
Et si on t'avait dit quand tu bossais chez Merrill Lynch qu'un jour tu serais à la tête d'une boîte qui fabrique des slippers, ça t'aurait étonné ou pas ?
Je l'aurais jamais cru parce qu'à l'époque j'étais vraiment à fond en finance, en banque d'affaires et tout. Et la mode m'intéressait comme un sujet anecdotique. J'avais une sensibilité naturelle, mais j'avais pas une vraie passion. Excusez-moi. Et non, je ne l'aurais jamais cru. C'était une surprise, mais le processus de création s'est fait de façon surprenamment assez naturelle. D'un seul coup, je me suis dit, OK, lançons une activité. Les chaussures, je croyais au produit, ça avait du sens d'un point de vue offre et demande. À l'époque, en chaussures plates pour femmes, on trouvait principalement les ballerines, qu'on retrouve aujourd'hui très bien, mais vraiment qui ont un usage différent. Elles n'ont pas de vrais talons, pas de vraies semelles. Et les mocassins, bien, mais un petit peu plus classique. Les slippers, ce n'était pas vraiment fait une place dans l'univers de la mode. Et je me suis dit que c'était pertinent d'un point de vue produit, d'un point de vue marché. Donc, je me suis lancé, mais jamais j'aurais envisagé ça quelques années auparavant.
Alors, j'imagine que ton style a changé aussi.
Oui, le style a évolué un petit peu, mais...
Ton style personnel, hein ?
Ah, mon style personnel. Oui, bien sûr, j'ai grandi. J'avais 30 ans quand j'ai lancé Châtel. Aujourd'hui, j'en ai une décennie de plus. Donc, je suis peut-être un petit peu moins exubérant. À une époque, j'avais
quand tu bossais dans la banque d'affaires, tu étais exubérant ?
Non, mais j'habitais à Londres. Et Londres, ils adorent tout ce qui est couleur. La mode anglaise casual est assez sympathique. C'est toujours très élégant, avec des associations de rayures, de couleurs, de blazers et tout, de chaussettes colorées et tout. Et
j'ai même des codes. Il y a des codes.
Il y a des codes, effectivement. Ouais. C'est extrêmement normé comme société. Donc, j'ai eu ma période dandy anglais, on peut dire comme ça, à l'époque où j'habitais à Londres. Mais c'était il y a bien longtemps maintenant.
Et maintenant, passé 40 ans, quel est ton style ?
Alors là, aujourd'hui, je suis père de famille. Je suis tout le temps en vélo dans Paris. Donc, je dirais que c'est plus casual. Mais j'aime bien me sentir confortable dans mes vêtements. Je suis rarement en t-shirt, hormis le sport. J'apprécie l'aisance que donnent des vêtements assez pas trop étriquée.
Oui, tu m'as dit que pour toi, la mode, c'est ta mode, en fait, c'est d'être bien dans tes vêtements, voilà. Et dans tes chaussures, bien évidemment, mais dans les vêtements. Alors, la question que se posent toutes les femmes quand j'interviewe un homme, c'est combien de temps tu mets pour t'habiller le matin ?
Oh là là, alors c'est vraiment quelques microsecondes. Hein. Je prends ce que je trouve dans
mon placard. Ah oui, t'attrapes comme ça, sans réfléchir.
Mais sans réfléchir, mais j'espère que ça tombe bien. Mais je me challenge pas. C'est vraiment un processus naturel. Je mets peu de jeans, à chaque fois régulièrement des pantalons en toile, toujours les mêmes coupes, été comme hiver, des châtelles aux pieds bien sûr, puis une chemise et un pull et une veste quand la saison le permet. Mais c'est vraiment assez simple et fluide comme processus. Qu'on se compare avec mon épouse qui est un petit peu plus sophistiquée. Dans...
Alors, ton épouse qui est Inès de Comminges, c'est ça ?
Comminges.
Comminges, Inès de Comminges, qui elle a un look absolument dingue.
Merci, merci
Valérie. Des outfits toujours extrêmement originaux, élégants. Est-ce que tu lui donnes ton avis parfois ?
Ah oui, oui. Alors, c'est plutôt elle qui me donne mon avis pour les chaussures femmes, parce qu'elle incarne la cliente Châtel. Et rarement, elle me sollicite, mais lorsqu'on sort, qu'on va à des mariages, qu'il faut des tenues un peu plus formelles, j'ai le privilège d'être consulté de temps en temps. Et dans ce cas-là, oui, oui, bien sûr, j'émets un avis qui se veut toujours sincère, très important.
Est-ce que ça t'arrive de lui dire « je n'aime pas » ?
Oui, mais très souvent, alors Inès est très, très habile parce qu'elle me propose le choix entre deux, trois tenues. Donc, le « je n'aime pas » ouvre toujours la porte à un autre choix. Donc oui, bien sûr, on a des goûts un petit peu différents. Inès a un goût très coloré, très espagnol. Elle est d'origine espagnole et un peu comme moi, je pense qu'elle perçoit la mode de façon un petit peu temporelle. Elle portera jamais le dernier soulier de la saison pour les filles ou le dernier sac à main et tout. Elle a son propre style qu'on peut retrouver sur Instagram, assez coloré, assez gay, assez naturel. Mmh. Elle se sent toujours à l'aise dans ses vêtements aussi. Et elle est un petit peu, je dirais, imperméable aux tendances aussi.
Tiens, toi qui, j'ai une question qui me vient comme ça, toi qui quand même, tu me disais que Châtel est une marque parisienne, tu es mariée à une Espagnole, tu as vécu à Londres, qu'est-ce que tu penses du mythe de la Parisienne ?
Le mythe de la Parisienne, alors je pense qu'il est un petit peu exagéré d'un point de vue français, mais il a tout à fait du sens d'un point de vue étranger. Quand on voyage et d'un seul coup, quand on rentre à Paris, je regarde souvent les femmes qui m'entourent, et les inconnues dans la rue et tout, et les Françaises ont vraiment une touche à part qui n'est pas exagérée, je pense. C'est toujours, y a une certaine simplicité, c'est bien moins sophistiqué qu'une Américaine, qu'une Espagnole. Elles sont moins apprêtées, mais pour autant, d'un point de vue élégance, ça tombe tout aussi bien, voire mieux, que certaines de leurs voisines européennes. Je pense que c'est lié au fait qu'on a la chance vraiment d'habiter dans Paris, une des plus belles villes au monde, où on retrouve de la beauté, de l'esthétisme absolument partout, que ce soit dans l'architecture, les musées, les bâtiments, les détails des portes cochères, des immeubles dans Paris et tout, les portes, les bouches de métro, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de beauté. Et je pense que les Françaises, les Parisiennes ont la chance d'être conditionnées par cet univers assez... assez harmonieux, et ça se ressent dans leurs tenues qui sont peut-être moins travaillées, mais qui tombent vraiment très bien.
Est-ce que tu as eu une éducation à la mode ? Je disais que ta maman travaillait chez Hermès. Est-ce qu'elle te donnait des conseils quand tu étais adolescent ou pas du tout ?
Absolument pas. Hein. Ça n'était pas du tout la vibe familiale, mais en tant qu'adolescent, bien sûr, j'ai été sensible aux tendances qu'on pouvait retrouver à l'école. Je me souviens, ça me fait sourire aujourd'hui, il y a peut-être une vingtaine, une trentaine d'années, c'était la mode, quand on avait 10-15 ans, de mettre des bottines Timberland ou d'autres marques.
On a tous eu des Timberland.
Mais, des chaussures de bûcheron canadien, concrètement, qu'on retrouvait sur des petits garçons ou jeunes filles en plein cœur de Paris, sur du bitume. Donc ça, effectivement, j'ai cédé à ces sirènes-là à l'époque, aux grandes dames de mes parents, parce que ça n'a pas de sens, ça pèse des kilos et des kilos, c'est impossible à lasser et tout. Et un petit enfant, bien sûr, est sensible au regard des camarades de sa classe. Mais jamais ça venait de mes parents qui nous imposaient quoi que ce soit. Pendant longtemps, au contraire, à la maison, on devait porter des Bermudas. Enfin, je parle jusqu'à 5, 6, 7 ans. Et un petit garçon à 5, 6, 7 ans, il veut mettre un blue jean plutôt qu'un Bermuda. Mais bon, ouais, ce sont des détails amusants d'enfance.
Et justement, toi qui as des enfants maintenant ?
Alors, les enfants sont encore petits et c'est Inès qui s'occupe de leur tenue vestimentaire. Et pour l'instant, Gaston, l'aîné, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir courir et être à l'aise dans ses vêtements. Et quand il a des salopettes qu'il faut enlever une bretelle et tout, c'est toujours un peu compliqué. Mais ils sont habillés à l'espagnol, je dirais. Et c'est un petit peu plus élégant que les tenues vestimentaires des enfants français. Où aujourd'hui, il y a beaucoup de jogging, de legging. C'est assez simple à enfiler, ça permet d'être nettoyé facilement. Gaston, il a des boutons partout sur ses chemises, sur ses manches et tout. Toujours plus compliqué. À l'école, ils nous font des remarques comme quoi il faut mettre un jogging plutôt qu'un pantalon à pince. Mais Inès tient beaucoup à l'habiller comme un petit Espagnol. Ça fait partie de sa culture.
La mode est différente en Espagne ?
Pour les enfants, elle est bien plus formelle, bien plus classique et je dirais peut-être plus élégante au quotidien. En tout cas.
C'est vrai qu'il est courant dans Madrid, le dimanche, de voir les enfants habillés comme les parents.
Oui, c'est assez amusant, ça plaît beaucoup.
Est-ce que tu connais l'origine de cette...
Je l'ignore, mais je pense que la cellule familiale espagnole est très forte, peut-être plus forte qu'une cellule française. Et les parents, je pense, sont ravis de reproduire leur schéma sur leur petit enfant. Et ça fait partie un petit peu de la tradition culturelle espagnole, je pense.
Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais ?
Vu ma corpulence, je pense à un t-shirt XXL ou un,
ah oui, mais ça, oui.
un Bermuda en mode rappeur américain. Ça, c'est clairement pas ma vibe, même si je pense qu'on doit être très confortable dans ce type d'habit.
Et as-tu le souvenir d'un fashion faux pas, à part les Timberland quand tu étais enfant ?
Oui, à l'époque, mon époque londonienne avec des pantalons de toutes les couleurs. Bon, après, ça s'inscrivait dans le cadre dans lequel j'évoluais. Aujourd'hui, je ne remettrai jamais un pantalon vert fluo pour aller à un brunch ou quoi que ce soit. Mais quand on a 20 ans, quand on habite à Londres, ça peut être amusant.
Que penses-tu de l'expression « être à la mode » ?
Alors, c'est une expression qui veut tout dire et qui s'adapte à tout le monde. Et je pense que chacun...
On peut qui veut peut-être rien dire aussi.
Qui veut peut-être rien dire, voilà.
Chacun tout dire peut... et rien dire.
C'est une expression extrêmement large où chacun peut se retrouver. On peut être à sa mode, à sa propre mode, qui peut être à contre-courant de son environnement, mais aussi, on peut aussi être à la mode en suivant des tendances. Et je pense que c'est une expression vraie dans tous les cas de figure. Aujourd'hui, l'autre jour, on était avec Inès à la terrasse d'un café. On a vu plusieurs jeunes filles à la suite passer avec des bottes de cow-boy au mois de juin à Paris, des adolescentes. Et elle se sentait à la mode, elle devait être contente avec elle-même, et pourquoi pas. C'est un petit peu incongru en plein été à Paris, mais je respecte tout à fait cette vision personnelle de la mode qu'elles avaient.
Est-ce que ça t'aime bien, justement ? Tu trouves l'inspiration à la terrasse des cafés, comme ça ?
Oui. Paris, c'est un spectacle, hein, que ce soit dans n'importe quel quartier. C'est un défilé permanent entre les touristes qui s'habillent différemment quand ils sont à Paris, les Parisiens, les Parisiennes qui évoluent, les gens pressés. On s'amuse toujours à regarder notre environnement. Et l'inspiration, je la retrouve bien sûr dans les Parisiennes, mais également dans la ville, dans tout ce qui nous entoure, les musées, les rues, l'architecture.
Et les réseaux sociaux ? Quel rapport tu as avec Instagram notamment ?
Alors, on est un peu prisonnier d'Instagram en tant que marque digitale. Châtel est né en 2012. Instagram.
Mais vous avez deux boutiques. Hein,
on a deux boutiques à Parisienne, mais la marque est principalement digitale. C'est vraiment notre canal principal de vente. Et quand on a lancé Châtel, c'était uniquement Facebook. Ensuite, Instagram a été lancé, puis racheté par Facebook. Et aujourd'hui, on est captif d'Instagram. Toute notre communication est relayée sur Instagram. Après, il y a différents médias. Il y a les newsletters, le site internet, la presse. Digital et print, mais Instagram reste le principal média pour Châtel. Donc on est un peu tributaire de ce qui se passe, de leur stratégie aussi commerciale. Aujourd'hui, tout est devenu payant sur Instagram. Quand on a lancé Châtel il y a quelques années, tout était gratuit. Il y avait un engouement, des vagues à surfer fabuleuses. Et aujourd'hui, ça a vraiment changé, surtout après le Covid. Tout est devenu plus cher.
Et plus compliqué aussi.
Plus compliqué, mais c'est la réalité du marché. Il y aura peut-être un jour une autre application qui remplacera Instagram. TikTok, Châtel est présent dessus, mais timidement. Mais notre cœur de cible est un peu plus âgé que la clientèle TikTok.
C'est ce que j'allais te demander. Qui est la femme Châtel ?
Alors, la femme Châtel, elle peut avoir deux âges potentiels. Notre génération, donc les jeunes filles entre 25 et 45 ans, et la génération.
J'aime beaucoup jeunes filles pour 45 ans, c'est sympa.
On reste toujours jeune à Paris. Et la génération de nos parents, des dames qui parfois ont des problèmes de pied, qui peuvent ne se chausser qu'en chaussures plates, mais qui ne veulent pas pour autant des chaussures vraiment plates type ballerine. Il leur faut une petite cambrure, un petit talon. Et les Châtel, à cet égard, sont pertinentes parce qu'il y a un petit talon invisible à l'intérieur, un talon extérieur. Il y a quasiment 2,5 cm de support.
Que regardes-tu en premier chez une personne que tu croises pour la première fois ?
Alors,
sont ses vêtements ou
non,
l'attitude ?
Non, la vibe générale, l'attitude, le langage corporel. Je ne me focalise pas sur des détails. Je regarde les yeux, bien sûr. Je pense qu'un regard est toujours très, très pertinent. Mais je n'analyse pas, je prends vraiment les personnes comme elles viennent, et puis s'il s'en dégage une vibe positive, heureuse et tout, je suis d'autant plus touché et sensible. Et après, si je devais répondre de façon spécifique à votre question, si je devais regarder un détail, vestimentaire, oui, bien sûr, ce seraient les chaussures évoluant
tout de
dans
suite,
ce domaine.
Les chaussures.
C'est, oui, je trouve que c'est important. C'est ce qui ancre la personne au sol et tout. Et...
Ah, c'est pas mal. C'est ce qui ancre la personne au sol.
Au réel, oui, c'est ce qui connecte avec l'environnement. Et après, ça veut pas forcément. On peut pas en tirer des conclusions. Quelqu'un peut être en sandales et être extrêmement élégant et tout, mais je trouve que c'est toujours un détail important.
Donc, pour toi, la slipper, c'est plus élégante qu'un escarpin ?
Alors, c'est une forme d'élégance différente. C'est une élégance très effortless, sans effort. Un escarpin, tout de suite, on peut pas courir, on peut pas gambader. Mais un escarpin donne une cambrure magnifique à une jambe de femme. Donc, en tant qu'homme, j'y suis très sensible. Mais l'élégance qu'apporte une slippers, comme elle est extrêmement simple et facile, encore une fois, il n'y a pas de lacets, on enfile sa chaussure. Et il y a une touche un petit peu boyish qu'on retrouve dans les slippers, parce que c'était un soulier pendant longtemps masculin. Je trouve que c'est assez réussi d'un point de vue élégance, vraiment en ce qui concerne le côté simple, fluide et qui tombe naturellement.
Alors justement, c'est une question que je pose souvent aux femmes. Certaines femmes, quand elles ont des rendez-vous importants, portent des talons pour se sentir justement ancrées. Alors toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu portes? Si tu as un rendez-vous très important, t'as une veste ou...
Oui. Ça, bon, tout dépend de l'interlocuteur. Je m'adapte et je serai toujours dans le code vestimentaire requis. Mais je ne serai jamais overdressed, comme on dit en anglais. Je serai toujours dans le ton. Un blazer pour un homme est très pratique parce qu'on peut y mettre son téléphone, ses portefeuilles et tout. Ça ne déforme pas les poches. Des châtels de circonstance,
évidemment,
en ce qui me concerne. Jeans, c'est moins ma vibe aujourd'hui, même si j'ai eu ma période jean déchiré comme tout le monde. Et un blazer à Paris, c'est idéal. On peut faire du vélo, la veste s'ouvre, on prend un petit peu d'air. C'est vraiment approprié.
L'habit fait-il le moine ?
Oui et non. On peut facilement se laisser piéger par une apparence trompeuse. Donc, jamais se fier, je pense, juste à la tenue vestimentaire d'une personne. Mais bien sûr, ça traduit une certaine allure sur une personne. On peut en tirer certaines conclusions qui ne doivent pas être trop hâtives. Ça donne clairement une impression générale, mais qui peut être fausse.
En fait, tu Attention. Te prends pas du tout la tête avec tes vêtements. Tu as ta base.
Oui, je ne suis pas quelqu'un de très sophistiqué aujourd'hui. Je l'ai peut-être été un peu plus jeune. Vestimentairement, je me sens à l'aise dans mes vêtements. Je sais que ça passe partout. Peu importe si je ne suis pas pile dans la tendance.
Je t'en fiche.
Quel est
ton rapport au shopping, justement ?
Alors, j'en fais absolument jamais. Ou alors, c'est vraiment contraint quand il me manque une paire de chaussettes ou plusieurs paires de chaussettes. Maintenant, comme tout le monde avec le Covid, j'ai le réflexe Amazon. Mais sinon, je n'ai pas le plaisir. Ou alors, si c'est chercher un cadeau spécial pour mon épouse, pour mes enfants, ça, c'est différent. Mais pour moi-même, moins de temps je passe dans les magasins, mieux je me porte.
Est-ce que tu t'achètes tes vêtements aussi ?
Oui, tout à fait. Ma femme ne le fait pas et je ne sais pas si elle le ferait, si j'apprécierais vraiment, parce que j'ai quand même, j'achète des vêtements très neutres, très simples, mais...
Ce sont souvent les plus difficiles à trouver.
Oui, bon, aujourd'hui, on trouve des enseignes assez grandes et tout, qui les proposent avec des coupes neutres, mais les chemises, on les fait faire et tout, et les pantalons, j'ai des tailles standards, et je ne sais pas si je déléguerais ça à mon épouse.
Ah, quand même.
Voilà, je pense que c'est quand même, en tant qu'homme, c'est un peu, pas un jardin secret, mais bon, encore une fois, je suis assez facile à habiller, mais c'est quelque chose qui se fait, qui sera, j'estime, mieux fait si je le fais moi-même.
As-tu une icône de mode ?
Mon épouse, Inès,
François, tu es un grand romantique. Hein.
Mais on le retrouve, peut-être, ça fait partie de ma personnalité. On le retrouve d'ailleurs dans la marque au début. Et Inès, aujourd'hui, oui, je pense qu'elle est assez à part dans son style vestimentaire. Oui. Elle est espagnole à Paris. Elle ne s'habille pas comme une Parisienne. Elle mélange un petit peu les deux. Mais elle fait toujours un effort. C'est peut-être dans la culture espagnole. Ils font toujours à maxima. En France, ce serait peut-être toujours un minima, que ce soit dans la façon de recevoir, dans la façon de s'habiller et tout. Et les Espagnols, c'est toujours un peu plus pour le plaisir qu'elle peut avoir, bien sûr, pour elle-même d'abord et avant tout, mais également pour son entourage, le fait de se sentir belle, élégante, désirée.
Je crois que il faudrait que Inès passe dans mon podcast, parce que je pense qu'elle aurait des choses à nous dire.
Elle apprécierait beaucoup, elle est extrêmement spontanée. Et à Paris, elle dénote peut-être un petit peu.
Est-ce qu'elle tient compte du regard des autres ?
Non, je ne pense pas, parce qu'elle est tout à fait retors aux tendances mode. Jamais elle mettra typiquement les bottes de cow-boy là, qu'on a pu voir l'autre jour dans la rue. Elle s'habille d'abord pour elle-même, et ensuite, j'imagine, pour sa famille, son mari. Et le regard des autres ne la touche pas trop.
Et toi ?
pareil, on évolue dans notre cellule familiale. On est en contact tous les jours avec les collègues de Châtel, des partenaires externes et tout. Mais c'est pas vraiment un sujet.
Mais tu oses, tu as l'air d'oser. J'ai vu une photo de toi sur Instagram à un mariage bavarois, c'est ça?
Ah oui.
Tu étais en tenue bavaroise.
Alors ça, c'était dans le dress code. On avait une soirée, c'était un mariage à Munich où la veille était... Alors, l'Allemagne, spécialement la Bavière, ils sont extrêmement attachés à leur tradition culturelle, historique. Et c'est le pays du Dirndl, donc la tenue traditionnelle féminine bavaroise, une robe avec un tablier, un chemisier à manches longues, et ce qu'on appelle le Lederhosen, la culotte de chasse, qui a un usage civil aujourd'hui, mais qui était faite autrefois en peau de cerf. Et effectivement, il y avait une soirée pour ce mariage qui s'est allée sur plusieurs jours en tenue bavaroise. Donc on a joué le jeu avec grand plaisir. Inès a un Dirndl, moi j'ai mes Lederhosen. Et je trouve que c'est assez élégant et c'est vraiment propre à la Bavière. En France, si on devait s'habiller comme ça avec, je ne sais pas, une tenue traditionnelle bretonne, je pense que les gens seraient un petit peu gênés, ils le feraient avec bien moins de souplesse. C'est vraiment un folklore qu'on réserve, je ne sais pas, pour des fêtes de village.
Tu parles à une bretonne, là. Donc...
la fanfare, mais jamais, je pense, Valérie, tu t'habillerais en bretonne pour aller à un baptême ou...
Non, ça c'est clairement pas.
C'est un petit peu dommage parce qu'en Bavière ou même en Espagne, dans certaines parties d'Espagne, ils ont encore des tenues traditionnelles qu'ils aiment...
En Andalousie, notamment.
En Andalousie, bien sûr. Ressortir avec fierté, ça fait partie de leur patrimoine culturel, social. Et c'est vraiment inscrit dans la société. Et en France, ça a un petit peu disparu, alors qu'à une époque, chaque région avait ses tenues vestimentaires. On les retrouve dans des fêtes de village, mais les gens les portent moins au quotidien.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
Alors, l'élégance, c'est se sentir bien pour soi-même, avec une certaine touche positive.
C'est-à-dire ?
Je pense que quand on se sent élégant, on se sent un petit peu grandi, on se sent un petit peu fort, on se sent un petit peu spécial. On peut être élégant en pyjama chez soi, on peut être élégant sur un terrain de basket avec une tenue sport et tout. Ça se traduit bien sûr par le côté visuel, mais également tout l'intérieur. Il y a toute une élégance morale, intellectuelle qu'on peut retrouver, qui peut être parfois bien plus criante qu'une élégance vestimentaire. Et je pense que c'est une donnée extrêmement propre à la personne, très subjective. Chacun a sa vision de l'élégance, mais c'est toujours une vision positive qui tire vers le haut. Il n'y aura jamais une élégance négative, petite, détruite, je pense.
Merci infiniment, François.
Merci, Valérie.
Et longue vie à Châtel.
Merci beaucoup. Longue vie à Châtel.
Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.